Et les vertus de l'échec à contre-pied des idées reçues et de l'intuition, bien souvent, les erreurs que nous commettons seraient tout à fait bénéfiques pour l'apprentissage. Le magazine Cerveau et Psycho y consacre même ce mois-ci sa une avec un dossier complet réunissant les analyses de scientifiques aussi bien dans le domaine de la neurobiologie que de la psychiatrie, mais également dans le champ de la philosophie. Pourquoi nos échecs nous construisent et nous font avancer? On en parle donc dans un instant avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le prix Abel qui vient d'être décerné donc à un français, Yves Meyer.
Oui, l'équivalent du Nobel pour les mathématiciens qui récompense ses travaux fondateurs sur les transformées en ondelettes.
C'est joli,
un
ça,
outil, oui, mathématique que vous utilisez peut-être vous-même sans le savoir. On en discute avec son collègue et ami Stéphane Mala.
Et puis comme tous les mercredis, nous retrouverons la science en grand format avec France 5 et ce soir un documentaire consacré aux Grecs et à la façon dont ils ont changé le monde depuis l'Antiquité. Stéphanie Texier réalise l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Apprendre de ses erreurs, ce sera donc dans un instant le dossier de l'émission et je salue mes invités, le neurobiologiste Emmanuel Prosic, le philosophe Charles Pépin et Sébastien Bollaire de Cerveau et Psycho. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Sébastien Bollaire, Michael Jordan était vraiment nul en basket, c'est vrai ça?
Il a raté plus de 9000 paniers, hein, c'est lui qui le dit. Il a perdu plus de 300 matchs, donc voilà, il était vraiment... moi, j'ai raté aucun panier en NBA.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc, de ce point de vue-là, j'ai une meilleure stat que lui.
Emmanuel Prosic, notre cerveau serait équipé de systèmes de détection des erreurs, alors?
Oui, hein, tout à fait, plusieurs. Des systèmes pour détecter les erreurs au moment où on réalise les actions, et aussi un système probablement pour identifier les échecs, mais aussi les succès. En fait.
Bon, vous allez nous parler de ça plus précisément, on a hâte de comprendre. Charles Pépin, vous militez pour une culture de l'erreur. Merci à vous d'ailleurs.
Il n'y a pas de quoi.
C'est vrai, il faut revendiquer ça au fond, non?
Oui, j'ai plutôt envie d'appeler ça une sagesse de l'échec, plutôt qu'une culture de l'échec, et que je pourrais distinguer de l'ivresse du succès, en sachant que de toute façon, les succès qu'on rencontrera après avoir échoué auront beaucoup plus de goût et de saveur,
et d'épaisseur. Ben alors, il ne faut pas s'en priver. On se retrouve donc dans un instant pour comprendre pourquoi les erreurs nous sont bénéfiques. Et j'attends vos messages sur le site de l'émission. Hier, le mathématicien français Yves Meyer se voyait donc décerner le prestigieux prix Abel remis par l'Académie norvégienne des sciences, récompense considérée comme l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens et qui couronne donc ses travaux fondateurs et visionnaires sur les transformées en ondelettes, un outil de mathématiques utilisé mondialement aujourd'hui. Stéphane Mala, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Allô, Stéphane Mala.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques appliquées à l'École normale supérieure et vous êtes collègue et ami d'Yves Meyer. Vous êtes donc avec nous pour réagir bien sûr à ce prix Abel. Et avant de vous entendre, je vous propose d'écouter la voix d'Yves Meyer. C'était hier, en fin d'après-midi, à l'Académie des sciences, propos recueillis par Sophie Bécherel.
Alors j'ai pris la chose avec surprise parce que chez les mathématiciens, on a une échelle de valeur et on la porte tous en nous. Et il y a des mathématiciens, même français, très proches, que je considère comme infiniment meilleurs que moi. Donc, j'ai été surpris, étonné, bouleversé. Et pour le moment, je ne sais pas encore quelles sont les raisons du choix. Ça me paraît paradoxal. C'est bizarre, on est célèbre pour quelque chose qui finalement est juste une rencontre heureuse avec un groupe d'amis, parce que les gens qui travaillaient sur les ondelettes à ce moment-là, dans les années 80, sont très rapidement devenus des amis très chers. Ces gens-là étaient tous animés par la même volonté de travailler ensemble, et c'est ça qui était drôle, vous voyez. Alors que mon apport personnel dans ce travail sur les ondelettes, je l'ai trouvé assez mineur. C'est très curieux. On est célèbre pour quelque chose qui n'est pas original et finalement on est beaucoup moins célèbre pour l'endroit où on a été vraiment profondément original.
Voilà Yves Meyer donc, qui réagissait à l'annonce de son prix hier au micro de Sophie Bécherel. Stéphane Mala, est-ce que vous avez été aussi surpris qu'Yves Meyer à l'annonce de ce prix Abel?
Non, j'ai pas été surpris. J'ai été surpris que ça arrive là maintenant, mais en soi, tout le monde pensait qu'il aurait dû l'obtenir. Le commentaire qu'il a fait est typique, je pense, du meilleur, de sa modestie. Mais tout le monde sait que la contribution qu'il a fait en mathématiques et en particulier sur les ondelettes est absolument fabuleuse. Donc il n'y a aucun doute sur le pourquoi il a reçu ce prix Abel.
Alors Stéphane Mala, comment expliquer simplement ce qu'est une transformée en ondelette, ce que sont ces ondelettes?
Des ondelettes, vous pouvez voir ça en quelque sorte comme des petites notes de musique. Sur une partition, vous avez ces notes qui sont des petits sons bien localisés à la fois en temps et qui ont une fréquence. Eh bien, ces petits sons, ce sont des ondelettes. Et si vous prenez une partition, eh bien, avec quelques centaines ou milliers de notes, vous arrivez à faire une pièce de musique extraordinairement riche. Et c'est une façon extraordinairement économe de produire un son. Eh bien, une ondelette, ça peut faire ça sur des sons, mais aussi sur des images, aussi sur des quantités physiques. Donc, c'est un objet mathématique qui permet de structurer, décomposer des informations très complexes.
Donc, c'est un objet qui a de très grandes applications et directement, alors ?
Ça a eu beaucoup d'applications, et ça a beaucoup d'applications. Alors, j'ai parlé sur du traitement du son, mais aussi, par exemple, la compression d'images avec le standard JPEG 2000, où ces images sont représentées avec des ondelettes. Plus récemment, on vient de détecter les ondes gravitationnelles. Bien là encore, comment est-ce qu'on a fait ? On a pris ces ondes qui étaient mesurées et on les a représentées avec des ondelettes pour réaliser qu'effectivement, elles correspondaient bien à la trace que l'on cherchait. Et ça se retrouve dans beaucoup d'outils, dans le calcul scientifique pour résoudre des équations de la physique ou de la chimie, même pour faire des modèles neurophysiologiques de la perception, par exemple l'audition et, ou la vision.
Mais alors Stéphane Malas, sans ces transformés en ondelettes, on n'aurait pas pu découvrir les ondes gravitationnelles ?
D'abord, les ondes gravitationnelles, c'est dû au modèle de la physique et à ces détecteurs absolument extraordinaires. Mais ensuite, il fallait effectivement mettre au point une technique de détection à partir du signal mesuré. Et là, ça a effectivement été fait avec des ondelettes.
Alors, vous avez travaillé dans les années 80 à l'élaboration de cet outil avec Yves Meyer. C'est comme ça que vous l'avez rencontré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ?
Écoutez, moi, à l'époque, j'étais étudiant de thèse. J'avais récupéré le premier papier d'Yves Meyer où il a obtenu ce résultat absolument remarquable qui permettait de construire les premières ondelettes. Et puis, il a posé le problème de comment construire toutes les ondelettes possibles. Et à ce moment-là, je travaillais en traitement d'image, donc j'avais une intuition qui venait d'un point de vue très différent. Et j'ai écrit un petit document que j'ai envoyé à Yves Meyer, que je connaissais pas à l'époque. Et là, ce qui est tout à fait typique d'Yves Meyer. D'abord, il a réagi avec un enthousiasme extraordinaire, puis m'a dit, il était de passage à Chicago à l'époque, il m'a dit de venir immédiatement à Chicago. Et donc, on s'est retrouvés pendant 3 jours, et c'est là qu'il a résolu essentiellement la plupart des problèmes techniques, mathématiques que j'avais, et puis j'avais retrouvé pas mal d'idées qu'il avait aussi, et c'est ainsi qu'il y a eu la naissance de ces multi-résolutions qui permettaient de construire toutes ces ondelettes. Donc, c'est très caractéristique d'Yves Meyer dans sa manière d'accueillir les plus jeunes avec une très grande générosité.
Alors, il le dit dans l'extrait qu'on a entendu, il trouve que les ondelettes, c'est pas ses travaux les plus originaux. Il a fait beaucoup d'autres propositions pour la science. Est-ce qu'on peut en citer un autre ? Je crois qu'il est à l'origine d'un prix Nobel de chimie aussi, non ?
Oui, c'est lui aussi qui a créé ce qu'on appelle les cristaux quasi périodiques, qui au départ sont des constructions mathématiques. Et on a eu la surprise de voir que effectivement de tels quasi-cristaux existaient, notamment en chimie, ce qui a donné lieu effectivement à un prix Nobel sur la construction mathématique qu'avait fait Yves Meyer. Donc il a une œuvre mathématique véritablement très large.
Voilà, et donc un grand mathématicien, encore un, puisque l'école des mathématiques françaises se porte décidément à merveille. Yves Meyer récompensé donc hier par le prix Abel, équivalent du Nobel en mathématiques. Stéphane Malas, on espère vous recevoir bientôt ici en studio avec Yves Meyer. On aura l'occasion donc de consacrer plus de temps à ces transformés en ondelettes. En tout cas, le terme nous plaît beaucoup. Et merci pour vos explications et à très bientôt donc dans La Tête au Carré.
À bientôt.
Axel, merci.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les bénéfices engendrés par une relation sexuelle peuvent persister pendant 48 heures. Par bénéfice, on entend cet état de la quasi-béatitude dans laquelle on est plongé après avoir fait l'amour. C'est une étude américaine qui le révèle apparaît avoir interrogé presque 200 couples nouvellement mariés. Ces couples ont beau ne pas avoir de rapport tous les jours, leur satisfaction sexuelle n'en est pas moins élevée. Ces effets influeraient directement sur la satisfaction générale que leur procure leur relation. L'étude montre que les couples qui entretiennent cet état de satisfaction se déclarent plus épanouis que les autres 6 mois plus tard. Le volcanisme martien fait l'objet d'une publication de la NASA. Il s'intéresse au volcan Arcia Mons qui s'est éteint il y a environ 50 millions d'années, un peu moins gros que son homologue géant Olympus Mons. Arcia Mons n'est pourtant pas négligeable. Culminant à 17 000 mètres, son cratère a un diamètre de 110 km et présente 29 cheminées. L'étude de la NASA estime que ces cheminées produisaient entre 1 et 8 millions de kilomètres cubes de magma par million d'années. Les plus vieilles coulées de lave identifiées remontent, elles, à 200 millions d'années, autant de nouvelles données qui permettent de mieux appréhender l'activité volcanique martienne bien différente de celle que l'on connaît sur Terre. Et puis le perroquet Kea a un rire contagieux pour ses congénères. C'est ce que révèle une étude menée par Raoul Singh, un éthologue autrichien. Dans un précédent travail, il avait isolé le rire de l'oiseau. Il s'agit d'une vocalisation bien particulière qu'on ne retrouve associée qu'à des comportements de jeu. Et pour cette nouvelle étude, le chercheur a diffusé un de ses rires enregistrés à des perroquets en pleine nature. Résultat, au moins plusieurs d'entre eux se sont mis à jouer dès qu'ils ont entendu le son et ont continué jusqu'à ce que le son se coupe. Une observation qui laisse penser que ce rire induit une excitation qui pousse au jeu. C'est la première fois qu'une telle contagion émotionnelle est observée chez un non-mammifère. Et le bénéfice de l'échec dans un instant. Apprendre de ses erreurs, c'est le dossier.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on
C'était XX avec On Hold à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Apprendre de nos erreurs, c'est donc le dossier cet après-midi en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho qui en fait donc sa une ce mois-ci pour comprendre pourquoi les erreurs nous forgent. Je suis avec Emmanuel Prosic, neurobiologiste, directeur de recherche CNRS dans un institut INSERM des cellules souches et du cerveau. C'est au sein de l'université Claude Bernard à Lyon. À vos côtés, Charles Pépin, philosophe, bonjour. Écrivain, bonjour, professeur de philosophie à la Maison de l'éducation de la Légion d'honneur et à l'Institut d'études politiques de Paris. Et puis Sébastien Boller, rédacteur en chef bien sûr de Cerveau et Psycho avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà sur le site. J'aimerais vous lire déjà ce premier message en fait d'Emmanuel, parce qu'on va beaucoup parler justement de ce qu'il nous dit dans ce message. Prof de maths vacataire dans l'éducation nationale, j'ai constaté que le système traditionnel d'évaluation pénalise les élèves qui apprennent par essai et erreur sur du moyen terme. Ça peut être une des origines de l'analogie erronée. Erreur égale échec. Qu'en pensez-vous? J'avais envie de vous le dire tout de suite parce que Charles Pépin, il me semble que c'est vraiment le fond de l'histoire aussi.
Ah, hein. Complètement. Moi, j'ai dans mon livre...
Sur l'esprit français.
J'ai un chapitre entier uniquement là-dessus, sur l'échec de l'école, au fond.
Et l'école française.
Hein. Oui, je parle que de l'école française. Et au fond, il y a un problème parce que on va sanctionner une erreur comme dans le rapport à une norme, au fond, comme un décalage par rapport à une norme, sans voir ce qui, dans ce ratage, peut être prometteur, peut être original, peut être singulier, et peut être, éventuellement, c'est pas toujours le cas, annonciateur de quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, il y a une mauvaise idée de ce que c'est que l'erreur, déjà, et qui va induire la confusion avec un échec au sens psychique. C'est-à-dire, l'élève va avoir un sentiment d'être un raté, alors qu'il a simplement fait une erreur, et le paradoxe, mais là, il y a ici des gens plus compétents que moi pour parler de ça, mais le paradoxe, c'est que tous les chercheurs savent que l'erreur fait partie du chemin normal pour arriver à la vérité. Un bachelor explique très bien, par exemple, que la vérité n'est jamais qu'une erreur rectifiée.
Et c'est même un mot qui dit ça, la sérendipité aujourd'hui aussi. C'est découvrir aussi par les erreurs, quand même. Par le hasard.
Par le hasard, c'est le un hasard. Peu plus vaste comme concept.
Mais les erreurs aussi peuvent faire partie de cela. Et ça fait des générations d'élèves traumatisés aussi, parce que du coup, c'est assez catastrophique comme effet de sanctionner l'erreur.
C'est un mauvais début dans la vie. Et c'est surtout un mauvais rapport à l'erreur et à l'échec. Et évidemment, je pense qu'on a tous, là où on est, une responsabilité pour essayer de changer cette culture et ce regard sur l'échec, en suggérant que l'échec puisse être une expérience et pas une humiliation, que l'erreur puisse être normale ou formatrice et pas simplement un manquement par rapport à une consigne ou à une norme. Et puis aussi, on a une responsabilité par rapport à nos enfants, de pas les stigmatiser comme ça. Mais je pense que ça peut changer si on y met tous un peu du sien.
Sébastien, justement, le dossier que vous proposez dans Cerveau et Psycho est plutôt revigorant, parce que la morale de l'histoire, justement, c'est qu'on ne réussit rien sans multiplier les tentatives. Et bizarrement, donc, c'est quelque chose qu'on a assez peu intégré en France.
Oui, alors, et ça, c'était un des aspects de l'intervention de Charles Pépin dans notre dossier que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il nous explique un petit peu pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi fort, la peur de l'erreur, en particulier dans notre pays. Il reviendra certainement sur les raisons culturelles et historiques. Et ce qui était fascinant aussi, c'est de voir qu'en face, les sciences du cerveau, et donc Emmanuel Prosic fait son article qui nous explique comment notre cerveau traite l'erreur, nous laisse avec cette impression que l'erreur, c'est une nourriture pour le cerveau. Et que donc, on peut avoir comme ça un bagage, un héritage culturel qui nous prive de nourriture d'une certaine façon. Et en mettant ces deux éléments face à face, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors Emmanuel Prosic, justement, le neurobiologiste que vous êtes, a beaucoup étudié la question, et les recherches en neurosciences montrent donc depuis maintenant une vingtaine d'années que notre cerveau est équipé d'un système de détection des erreurs, et c'est pas pour rien.
Oui, un système, voire des systèmes, en fait. La recherche a commencé dans le domaine au début des années 90, où on a commencé à identifier par l'électroencéphalographie chez l'homme, en particulier, et d'autres expériences électrophysiologiques chez l'animal, des signaux qui émergeaient du cerveau au moment où les individus se rendaient compte qu'ils étaient en train de produire une réponse erronée ou lorsque ils obtenaient pas ce qui était attendu après leur action, en fait. Ce qu'on a appelé, on appelle ça généralement une erreur ou une absence de récompense. Et donc ce signal qui est une onde négative qu'on enregistre toujours au même endroit, qui est très très facilement enregistrable dans tous les labos.
C'est l'ERN
du monde. C'est ce qu'on appelle.
C'est le nom de ce signal.
En anglais, c'est Error Related Negativity, qui est lié. Alors, c'est vraiment très très rapide. C'est-à-dire que lorsque on fait des tâches en laboratoire où on demande au sujet de répondre très rapidement, choisir entre deux options. Ces sujets vont aller vite, et plus ils vont aller vite, plus ils vont avoir tendance à produire des réponses erronées. Et au moment où les sujets produisent, c'est-à-dire déclenchent l'action erronée, le cerveau, dans les 80 millisecondes, détecte cette erreur avant même que l'action soit finalisée.
Ah oui.
Donc le cerveau anticipe l'erreur. Donc il est, parce qu'il prédit, en fait, et le cerveau détecte que le résultat de l'action va pas être adéquat.
Donc il y a une détection d'erreur ultra rapide.
Ouais, c'est très très rapide. Alors ça, c'est une classe de ce qu'on appelle de surveillance des performances, l'évaluation des performances, qu'on lie à la production de l'action elle-même. Et il y a une autre classe qui est plus liée là à l'évaluation de l'échec ou détection de l'échec. Donc le cerveau apprend à reconnaître des indices qui viennent de l'environnement et qui indiquent que quelque chose ne va pas. Et alors on prend l'exemple par exemple dans l'éducation, les notes que l'instituteur donne à l'élève sont des indicateurs, sont des indices de la performance qui a été réalisée. Et donc ça aussi fait intervenir un système qui évalue et qui détecte. Alors là, c'est une information qui vient de l'environnement, un signal visuel, et le cerveau produit 200 ou 250 millisecondes après la vision de ce stimulus-là, une onde négative aussi, qui vient à peu près des mêmes régions, pas exactement les mêmes, et qui semble contribuer à l'évaluation de l'échec. Là,
Alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on voit l'anticipation et la prédiction dont est capable le cerveau. Donc le cerveau peut lire dans le futur quasiment, c'est ça?
Ouais. Alors en fait, maintenant on se rend compte que le cerveau, il fait que ça. C'est-à-dire le principe de base de fonctionnement du cerveau, c'est de prédire tout. C'est comme ça qu'on comprend le monde, c'est comme ça qu'on comprend ce que les autres individus font. Là, j'anticipe un peu ce que vous allez dire, ce que vous allez faire.
Donc je pose la même question à votre sujet.
Je fais des prédictions et donc je vais estimer au moment voulu si oui ou non c'était correct. Donc oui, donc le fait de prédire permet au cerveau d'être un tout petit peu toujours en avant sur ce qui va se passer et donc de détecter très rapidement quand quelque chose ne va pas.
Ouais. Charles Pépin, c'est fascinant, non, que la physiologie, les neurosciences voient ces choses-là.
Est-ce que vous voudriez dire, oui, c'est fascinant, je suis très heureux de vous entendre parler, surtout que je suis complètement inculte en la matière et ça m'intéresse par rapport à mes thèses.
Et puis ça corrobore aussi ce que vous nous dites.
Ça corrobore, mais justement, j'ai une question. Est-ce qu'il détecte plus rapidement l'erreur que le point positif? Enfin, quand il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il est plus rapide dans le rapport à l'erreur que dans le rapport à la bonne réponse?
Alors, en l'occurrence, les dernières recherches qui ont été faites montrent que les mêmes systèmes qui détectent les erreurs semblent aussi détecter les réussites.
Oui.
À peu près avec les mêmes latences. C'est ce qui se passe après qui est très différent. Mais ces systèmes d'évaluation font un peu les deux. Nous, les recherches qu'on a menées, en particulier, non pas sur les détections rapides au niveau de l'action, mais des signaux, montrent que les mêmes régions, pas tout à fait les mêmes neurones, mais les mêmes régions cérébrales, codent différentiellement, mais codent les erreurs, les éléments négatifs, les échecs et les succès.
Ouais.
Donc ça fait partie de la même famille.
Mais par contre, c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que du coup, ça nous invite à finalement douter de la différence qui serait une différence d'essence entre c'est bon et c'est pas bon. Quelque part, du point de vue du fonctionnement,
c'est de l'information.
C'est des informations analogues, en fait.
Oui, oui, Sébastien Boller.
Moi, ce que j'avais compris, c'était effectivement ça, c'est que le cerveau fait une prédiction et le résultat réel est soit mieux, soit moins bien, mais dans les deux cas, il y a un écart par rapport à la prédiction et c'est ça l'erreur. Voilà. L'erreur peut être positive ou négative. Le cerveau, il voit juste une erreur positive ou négative, et vous allez peut-être me détromper, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est la mesure de cet écart qui ensuite va permettre une mise à jour du comportement, apprentissage.
Donc ça, on en rentre dans la théorie, là, et dans l'application de ces principes. Effectivement, l'idée, c'est que le cerveau détecte des erreurs de prédiction. Et ces erreurs de prédiction, elles peuvent être... donc c'est une erreur positive, donc c'est mieux qu'attendu, ou c'est négatif, c'est-à-dire que c'est moins bien qu'attendu. Et cette mesure, l'erreur de prédiction, peut être utilisée pour apprendre. C'est-à-dire, c'est une quantité qui peut être réutilisée pour réévaluer la prédiction. Et comme ça, on ajuste les prédictions au fur et à mesure de l'apprentissage.
Sébastien parlait de nourriture tout à l'heure, justement, du cerveau avec l'erreur. Mais c'est ça, au fond, c'est le bénéfice aussi dans l'apprentissage, par exemple, chose que vous avez beaucoup étudiée également dans votre laboratoire. Donc c'est le rôle aussi de l'erreur dans la façon dont on peut retenir les choses.
Oui, alors ça permet de réévaluer les choses, en fait. Ça permet deux choses, l'erreur. Hein. Ça permet de réévaluer ce qu'on a fait de façon négative, c'est-à-dire que ça, c'était une action qui était plutôt pas adéquate. Et ça permet aussi de déclencher d'autres mécanismes qui sont des mécanismes d'adaptation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'il va falloir en général, on essaye de ne pas répéter son erreur, mais ça dépend un peu de la situation. Donc oui, c'est ça que je voulais dire, l'erreur a un peu plusieurs facettes.
Charles Pépin, fasciné par ce sujet de neurosciences.
C'est marrant parce que nous, les philosophes, on est complètement incompétents dans ces domaines et ça manque vraiment. Mais j'ai une question, imaginons que quelqu'un, pendant un certain temps, mettons dans les années de formation, parce qu'il est, pour plein de raisons, en fait, se trompe pas. Est-ce que ça va lui nuire pour comprendre plein de choses plus tard, du point de vue du cerveau?
Le fait de ne jamais se tromper fait qu'on ne réévalue jamais ses prédictions. Donc, a priori, on peut persister dans l'erreur s'il n'y a pas un retour sur l'inadéquation des choix. Donc oui, c'est plutôt mauvais de ne pas avoir un retour négatif sur ces actions. Par contre, ce qui est mauvais, je pense que c'est ça qui est l'objet de la discussion aussi, ce qui est mauvais, c'est d'associer cet échec à quelque chose d'émotionnellement pesant.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Il y a beaucoup de messages également, de témoignages des auditeurs. Je vous les transmets dans quelques instants, juste après Isaac Delision avec Cajun.
Accumuler des connaissances en apprenant par cœur, c'est exactement ce que le jeune Charles Darwin a du mal à faire. Né en 1809 en Angleterre, il est le cinquième enfant d'un médecin qui a de grandes aspirations pour son fils. Mais Charles est bien plus intéressé par le monde qui l'entoure que par l'école. Souvent en retard, il se décrira plus tard lui-même comme un petit gaillard simplet. Ses professeurs pensent la même chose de lui. Et pourtant, ses difficultés à l'école n'ont rien à voir avec ses capacités. il est tout simplement fait pour autre chose.
Voilà, extrait d'un documentaire de la jeunesse de Charles Darwin, diffusé l'année dernière sur Arte pour ce sujet sur nos erreurs et ce qu'on peut bien sûr en apprendre avec Emmanuel Prosic, neurobiologiste, le philosophe Charles Pépin et Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau Psycho. Sébastien, intéressant l'exemple de Darwin, évidemment. Hein. Personnage emblématique, charismatique et qui pourtant avait plutôt mal commencé.
Oui, bah c'est peut-être l'exemple des situations où l'erreur peut nous apprendre ce que rien d'autre ne peut nous apprendre. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de relations de maître à élève, l'élève peut apprendre par imitation ou peut apprendre simplement en appliquant des préceptes. Mmh. Mais ce que nous disait Frédéric Franget, le psychiatre qui intervient dans le dossier, c'est que pour trouver sa voie dans la vie, il n'y a pas de cours qui va nous dire comment faire. Donc comment savoir si on est plutôt fait pour être architecte, pour être écrivain, pour être médecin, c'est seulement au contact de la réalité qu'on peut y arriver. Et Darwin, sa trajectoire nous montre exactement comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut se trouver devant des portes fermées, des cul-de-sac, pour prendre un autre chemin.
Ouais.
Et là, si on a un cerveau capable, assez flexible, pour intégrer ces messages que nous donne la vie, alors là, l'erreur devient simplement un guide.
C'est le cerveau ou l'éducation, finalement? Parce qu'on voit bien qu'avec un entourage qui ne favorise pas justement la culture de l'échec, on va droit dans le mur, non, Charles Pépin?
Ouais, mais c'est surtout une qualité d'écoute et d'attention et de disponibilité à ce qui arrive. Et ça permet de dire une chose importante, c'est que l'échec, parfois, nous apprend à rien, si ce n'est que cette voie n'est pas faite pour nous. C'est pas une vertu de persévérance ou une vertu de compétence, c'est ce que moi j'appelle une vertu de disponibilité. Puisqu'une route se barre, je vais aller en voir une autre. Il faut quand même dire que Darwin, après, il a échoué en fac de médecine, 1 an. Il a échoué après en fac de théologie, 2 ans. Et ensuite, il s'est embarqué sur le Beagle pendant plusieurs mois parce qu'il était un peu désœuvré. Ouais. Et finalement, il a rencontré son désir grâce à ce double échec.
Et il a inventé. Ouais, il est devenu créateur d'une nouvelle idée, voilà, quand même.
Bien sûr. Et après, on peut presque faire une autre lecture aussi, une lecture plus psychanalytique, au fond, de l'échec comme acte manqué. C'est-à-dire que peut-être son véritable désir inconscient était déjà d'être un inventeur, un génie, un fondateur, et non pas un médecin généraliste comme son père, et non pas un notable comme son père, et qu'il a dû échouer pour se rapprocher du désir qu'il ne savait pas encore être le sien. Une lecture plus psychanalytique, du coup.
Emmanuel Prosic.
Oui, moi, ce que ça m'inspire, c'est que Darwin était un explorateur aussi. Et en fait, il a appris en explorant le monde, en découvrant le monde.
Et en prenant le temps.
Et en prenant le temps. Et l'exploration, c'est ce qui permet de recueillir de l'information de l'environnement, des échecs ou des réussites, ça permet de recueillir de l'information. Et ça, nous, on montre en laboratoire que ces mêmes régions qui évaluent l'erreur sont aussi celles qui contribuent à produire des décisions exploratoires, c'est-à-dire d'aller chercher l'information dans l'environnement.
C'est-à-dire, donc, parlez-nous de ça, je trouve ça fascinant.
Ben, on fait des expériences dans lesquelles on étudie les décisions. Il y a différents types de décisions, comme vous savez, décisions simples dans des tâches où on doit choisir entre deux stimulus, donc c'est une situation expérimentale. Et on a créé des conditions dans lesquelles les sujets peuvent de temps en temps choisir d'aller voir un indice qui va leur dire si oui ou non ils sont prêts d'obtenir un bonus de récompense ou un bonus d'information. Et donc cette décision-là, toute simple, c'est-à-dire de rompre, d'arrêter l'activité en cours et d'aller chercher quelque chose de supplémentaire, chercher une petite information. Elle est toute particulière, cette décision. Et elle semble être déclenchée par l'activité de neurones dans les mêmes régions qui évaluent les erreurs. Et on montre même que c'est les mêmes neurones, en fait, qui s'activent
à ce moment-là. Mais d'ailleurs, ça c'est génial, parce que ça veut dire que quand on a vécu ça, des erreurs, des échecs, on a travaillé, en fait, ces réflexes neuronaux, je ne sais pas comment vous dites, ces zones. Et ce qui peut expliquer qu'après, quand on réussit, on garde cette âme d'explorateur jusque dans les succès. C'est des gens comme Bowie, comme Prince, ils ont connu un peu d'échecs au début, et puis après, ils réussissent, et en se diversifiant, en se réinventant, ils ont ce que moi j'appelle la sagesse de l'échec jusque dans le succès. Mais dans vos termes, à vous, c'est plutôt cet esprit d'explorateur.
Et cette plasticité du cerveau aussi, parce que ce que vous décrivez, c'est bien ça.
C'est
d'être capable d'aller explorer d'autres réseaux, au fait.
Voilà, et d'être capable de sortir de la routine, en fait. C'est ça qui est compliqué pour un cerveau et pour un individu.
Ce qui est amusant, c'est que finalement,
sortir des routines pour aller voir ailleurs.
Avec les différentes disciplines, on parle exactement de la même chose, avec des regards très différents, mais à l'appui
de l'humain.
De l'humain, et voilà.
Mais ce qui est important, ce que vous avez dit, c'est que, au fond, sortir de la routine et la répétition, c'est important dans le rapport à l'échec comme dans le rapport au succès.
Un message de Françoise, merci pour votre sujet. Il ravive chez moi, dit-elle, une souffrance, car dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, j'ai le sentiment que je n'ai pas appris de mes erreurs. J'en ai vécu plutôt une dépréciation de moi-même et dans certains cas de la culpabilité. J'ai même reproduit parfois des schémas d'échec dans mon travail et malgré des aides psychologiques. Sébastien, vous avez un petit mot pour Françoise ?
Oui, alors là, je me réfère à l'article de Frédéric Fanget, lui, qui effectivement, il s'inscrit un petit peu en faux par rapport au message que parfois les parents peuvent donner aux enfants en disant « tu as fait une erreur, ben écoute, c'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas la refaire ». Parce qu'il dit, en fait, dans bien des cas, c'est très anxiogène pour l'enfant, parce qu'il dit « bah j'ai plus le droit à l'erreur, je me suis trompé une fois, ça veut dire que maintenant j'ai plus d'excuses ». Et il dit, en fait, il y a des domaines où on fait toujours des erreurs. Il faut en prendre note. C'est ce que disait Charles Pépin. C'est une connaissance de soi, finalement. On se rend compte qu'il y a des domaines où on va régulièrement se planter. Et donc, il faut pas... Le danger, ensuite, c'est de généraliser. Il dit que c'est un schéma pathologique où, ensuite, il dit quand on s'est retrouvé souvent en échec dans un domaine, on a tendance à penser que c'est l'ensemble de notre soi, de notre personnalité, qui est nul. Et donc, pour ça, ensuite, il y a toutes sortes de procédures thérapeutiques pour démonter ce biais de généralisation. On se rend compte que, finalement, on a plusieurs facettes de notre personnalité, que sur d'autres facettes, on va peut-être se rendre compte qu'on n'est pas si nul que ça. Mais on a tendance à généraliser, c'est une sorte de réflexe cognitif. Donc, je dirais peut-être qu'il y a déjà cet aspect à prendre en compte, faut pas généraliser.
Charles Pépin ?
Juste deux petites remarques. Le fait de comprendre que la personnalité n'est pas un moi unifié, que j'ai pas une essence en moi qui serait un noyau, je suis multiple, je suis pluriel, c'est déjà très aidant, parce qu'on va se dire, quand on échoue à répétition, c'est pas moi qui suis nul, c'est par contre, c'est une partie de moi qui, là, marche pas bien dans le rapport à cette activité. Et donc, l'échec n'est pas l'échec de ma personne, il est l'échec soit juste d'une idée, d'un projet, soit d'une seule de mes dimensions. Et puis, deuxième remarque très importante par rapport à Françoise et par rapport à ce que vous disiez, c'est, il n'y a pas que ne pas répéter l'erreur ou la répéter. On peut la répéter en moins pire. C'est ce que dit Beckett quand il dit, tu peux rater de mieux en mieux. Hein, tu as échoué, essaye encore, rate encore, mais rate mieux. Et bien souvent, dans la vie réelle, la vie amoureuse, la vie sportive, tout ce que vous voulez, quand on a peur d'échouer et qu'on est à deux doigts de s'en sortir, ce qui fait qu'on va répéter le scénario d'échec, c'est qu'on veut réussir. On veut gagner, on veut plus perdre. Et du coup, on se bloque, et il y a le problème que vous évoquez, c'est très angoissant de se dire, j'ai pas le droit de répéter l'erreur. Alors, on peut se dire, au fond, si je la répétais maintenant, ce serait pas si grave, parce que j'ai quand même progressé au sein de mon échec. Par exemple, dans les ratages amoureux qu'on répète souvent, hein, on revit les mêmes situations un peu de blocage et tout. Si on comprend ce que dit Beckett, on est vraiment un peu boosté. Parce qu'on se dit, non, j'ai pas échoué de la même manière.
Ouais. C'est moins pire.
Pas répété à l'identique. Ouais. Il y a de la progression au sein du ratage. Ouais. C'est à mon avis le début de la réussite.
Eh ben on y pensera à vous, en tout cas Charles Pépin et à Beckett également. Emmanuel Prosic, faut réintroduire l'erreur au cœur justement de l'enseignement. Ça c'est aussi ce que vous avez appris à la lumière de vos travaux.
Alors ce qu'on apprend nous, c'est que l'échec, l'erreur, c'est fondamental pour le cerveau. C'est une nourriture pour le cerveau. Mm-hmm. Et il faut l'utiliser à bon escient. Il faut bien dissocier ce dont je parlais juste avant, de détecter les erreurs et comment le cerveau aussi va utiliser ces détections pour s'adapter, ce qui est a priori des choses différentes.
Oui.
Il y a aussi un côté de l'erreur qui est lié aux émotions. Et ça, je pense qu'on va en parler après. C'est effectivement détecter un échec va entraîner une réaction émotionnelle. Et c'est là où, en fait, se jouent un peu les problèmes dans l'éducation. C'est-à-dire quel type d'émotion on va associer aux échecs.
Alors justement, on a Basile qui nous écrit aussi pour parler de l'école et de l'enseignement. Il nous dit « N'accablez pas le système français. Le problème pour tout élève est d'être seul face à son erreur. La disparition des systèmes d'aide empêche de nombreux élèves d'être accompagnés justement dans leurs erreurs. » Charles Pépin.
Les systèmes d'aide, c'est-à-dire ?
Alors, il cite, Basile, le type RASD et CLIS. Alors moi, je connais pas ça, mais...
RASD
et CLIS.
Je ne connaissais pas, mais...
En tout cas, système d'aide.
Oui, mais je pense qu'il faut... comme le premier système d'aide, c'est les professeurs eux-mêmes, quand même. Et c'est ça qui est important. Je pense que les professeurs... Enfin, je me mets dans le lot, c'est pas toujours facile. Il faut qu'on fasse vraiment attention de bien ouvrir les yeux sur ce qui, dans une erreur, peut être intéressant, quoi. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi savoir reconnaître qu'il y a des ratages un peu nuls, quoi, des ratages qui apprennent pas grand-chose. Je sais pas ce que vous en dites du point de vue du cerveau, mais ça doit exister, hein. Je pense pas que toutes les erreurs sont intéressantes. Je pense pas que tous les ratages sont passionnants. Du coup, il faut faire attention en tant que professeur, en tant que parent, en tant qu'ami, de toujours essayer de pas rater les ratages intéressants. Et donc, d'être peut-être lucide aussi sur les ratages inintéressants. Moi, par exemple, en tant que prof de philo, quand il y a une copie hors sujet, mais hyper originale, où l'élève part dans toutes les directions, Je vais pas lui mettre 6 comme à l'élève qui a rien tenté et qui a fait un truc médiocre et qui va avoir 6. Je vais lui mettre, par exemple, une meilleure note ou alors non notée. Je vais essayer de valoriser quelque chose dans ce ratage, de pas l'associer à un ratage existentiel, au fond.
Bon, tout le monde aura envie de vous avoir comme prof, Charles Pépin. En tout cas, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion avec les messages sur franceinter.fr. News. Et c'est Moon Martin dans ce dossier consacré à l'apprentissage avec nos erreurs.
La machine à apprendre, elle vient d'Amérique. Alors, qui va commencer ?
Asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1942. Attention, répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter ?
Si. L'ONU a été fondée en 1942.
En quelle année ?
En 1942.
Répétez plus vite.
L'ONU a été fondée en 1942.
Répétez 42 plusieurs fois.
42.
Attention, nouvelle question. Choisissez la bonne réponse.
C'est New York.
Réponse fausse.
Aïe.
Voilà, les sous-doués passent le bac et la machine à baffe pour apprendre de ses erreurs. C'était en 1980. Derrière la caméra de Claude Zidi, Emmanuel Prosic, justement, vous faites de ce type d'expérience dans vos laboratoires pour voir si notre cerveau réagit bien aux erreurs?
Absolument pas.
Vous n'avez pas de machine à baffe?
Non.
Bon, en tout cas, on a un message de Pascal qui nous dit ceci. Les enseignants sont généralement d'anciens bons élèves, donc peu concernés par l'erreur. On peut considérer de ce point de vue la difficulté des enseignants d'être en mesure de comprendre les difficultés des élèves et donc de leurs erreurs.
C'est pire que ça. C'est que parfois, ils ne sont devenus professeurs que pour rester à l'école à savoir l'école des bons élèves, ce qui est aussi le symptôme d'une peur de la vie, du nouveau, et qui évidemment va pas les inviter à valoriser l'audace qui fait que certains élèves se plantent. Alors attention, je nuance mon propos. Tous les profs sont pas comme ça. Moi-même, je suis prof, j'ai plein d'amis profs et ils sont pas du tout comme
ça. Merci, vous allez nous épargner quelques messages.
Mais simplement, je pense qu'il y a une idéologie dominante qui est celle-là en France. Et c'est tellement dommage parce que le problème, c'est à quel point ça fait souffrir les élèves, quoi.
Ouais.
Ils s'identifient à leurs échecs. Ils confondent avoir raté et être un raté. Et il y a quelque chose comme l'idée de la mort, hein, qui arrive à chaque échec. Il faut imaginer. C'est seulement en France que les professeurs comme ça rendent les copies publiquement en lisant la note à voix haute, en mettant en rouge 7 sur 20, mais c'est extrêmement violent.
Et humiliant.
Et surtout, ça sert à rien, au fond.
Ouais.
Et ça, je pense qu'on peut le changer assez facilement. Et faut pas oublier aussi que l'échec, c'est l'étymologie de l'échec, c'est le roi est mort. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre que par l'échec, on progresse dans sa vitalité, au fond. Mmh. Et essayer de dissocier cette espèce de rapport à l'échec d'une frayeur terrifiée par rapport au fond à la mort.
Alors Sébastien, pourquoi cette singularité française au fond ? Parce que quand on regarde les systèmes pédagogiques ailleurs, dans les pays scandinaves en particulier, on voit qu'on est bien loin de ces traumatismes et humiliations en tout genre, hein, même si parfois ça peut nous paraître assez minime, mais enfin, c'est pas dans notre culture, effectivement.
Hein. Ça, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on a posée à Charles Pépin, c'est lui qui analyse ça très bien, sur les racines profondes, très anciennes, liées à notre héritage grec, hein, vous dites grec et chrétien en même temps. Ouais. Vous parlez d'essentialisme, c'est-à-dire tout rapporté à des qualités essentielles de la personne.
Oui, il y a une longue histoire qui en plus s'est retrouvée réintégrée dans l'école de la Troisième République, qui a été une école, une machine à créer de l'égalité, et pour des bonnes raisons, au sens social, il fallait apporter un monde commun à des gens socialement très différents, donc c'était bien. Mais du coup, elle n'est jamais née comme une école de la singularité, comme aux États-Unis, à l'inverse des États-Unis, par exemple, ça a toujours été une école de l'égalité. Donc le but n'était pas d'encourager chacun à avoir un talent singulier dans le rapport à l'exercice ou à la copie ou à la disserte, c'était que chacun ait les mêmes connaissances, les mêmes savoirs, les mêmes compétences pour pouvoir exercer une même citoyenneté. Donc il y a une histoire. Et donc voilà ce que j'expliquais dans notre entretien, c'est qu'il y a eu un côté essentialisme grec, où on se dit, voilà, quelle est mon essence, est-ce que je suis nul ? Un truc plus ambigu avec le christianisme est quand même aussi assez essentialiste. Tout ça se mélange dans l'école de la République pour en faire une machine à faire souffrir les élèves, au fond. Et encore une fois, cette école, elle a été bonne, elle a été nécessaire, mais aujourd'hui, elle ne marche plus. Elle n'apporte plus cette égalité. L'école de la République est en crise. Prenons cette crise comme une chance pour l'inviter à devenir l'école de la singularité, de la créativité. Dans le monde en crise qui est le nôtre, on n'a pas besoin d'élèves qui vont appliquer des consignes. On a besoin des gens qui sont créatifs, qui sortent des sentiers battus, qui arrêtent de répéter, qui sont curieux, qui bifurquent, comme vous l'avez dit, Monsieur Prosic, qui sont des explorateurs, en fait, du point de vue cérébral, quoi. On a besoin d'explorer.
Liliane nous dit, enseignante, j'essaie de convaincre mes étudiants que c'était très bien de se tromper, que ça montre qu'au moins ils avaient essayé, qu'ils apprenaient plus et mieux en faisant des erreurs, mais c'était déjà trop tard, ils avaient peur de paraître ridicules, pourtant quand ils étaient petits, ils sont beaucoup tombés avant d'arriver à marcher correctement. Emmanuel Prosic.
Oui, la pression sociale est importante, en fait, c'est aussi un facteur qu'on commence à prendre en compte en neurosciences, c'est-à-dire comment la présence d'autres élèves, ou d'un instituteur, enfin en tout cas des référents avec différentes hiérarchies peuvent influencer les capacités cognitives et aussi la façon d'appréhender ses propres erreurs. Donc ça c'est un facteur sur lequel il faut travailler.
Oui. Mais alors vous travaillez avec l'éducation nationale ou pas ? Parce que le nombre d'émissions qu'on a fait avec des neuroscientifiques, hein, je pense à Stanislas Dehaene évidemment, où il nous disait mais vraiment l'étude du cerveau montre à quel point on est complètement décalé par rapport aux réalités et par rapport aux programmes d'enseignement offerts aux élèves.
Donc, moi personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas du tout. J'ai une collègue Martine Meunier à Lyon qui travaille un peu, qui essaye d'aller vers ce nouveau champ qu'on appelle la neuroéducation.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire d'appliquer les découvertes de neurosciences pour l'éducation, mais on a très peu de contacts, en fait.
Ouais. Dommage, non ?
Un peu dommage, je pense.
Il faut favoriser la rencontre des disciplines, hein, c'est ça qui est intéressant. Charles Pépin, alors je rappelle ce titre de votre livre, Les Vertus de l'échec, c'était publié l'année dernière aux éditions Alary. Vous militez quand même pour une valorisation de l'échec ?
On peut dire ça, mais c'est un peu... C'est un petit peu mal dit. Moi, je milite pour une valorisation de la réussite existentielle, au fond.
Merci, Charles Pépin.
Non, non, mais je veux dire...
J'apprendrai de mes erreurs, moi aussi.
Non, pardonnez-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire...
Vous êtes humiliant.
Non, non, mais le but, c'est quand même de réussir. Mais réussir, ça veut dire quoi ? Je pense que, pour moi, philosophiquement, la réussite, c'est la réussite de sa singularité. Et je pense que on fait davantage l'expérience de sa singularité au moment de l'échec qu'au moment du succès. Donc je vous donne raison, il s'agit de valoriser l'échec. Mais quand même, l'échec dans une histoire, dans une expérience, dans un apprentissage. Et vous savez, vous parliez de l'enfant qui, l'enfant humain échoue en moyenne 2000 fois avant de réussir à mettre un pied devant l'autre. Et le poulain, lui, en une heure, il y arrive. Mais la différence, c'est que le poulain, il va marcher toute sa vie de la même façon. Et le petit enfant, il va peut-être avoir mis un an à y arriver, mais après, il fera du vélo et il conduira des voitures. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que le ratage, c'est l'essence de l'humanité. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas des animaux comme les autres, parce qu'on n'obéit pas à l'instinct naturel, au fond, parce qu'on est libre. Rater, c'est liberté, vous comprenez ?
Oh, ça c'est beau, ça.
Oui, mais c'est ça. Oui.
C'est ça. Et la structure du cerveau reflète cette réalité. Notre cerveau est doté d'un excédent de neurones et de synapses qui sont faites pour être éliminées. Et c'est en éliminant des synapses qui ne seront plus utilisées qu'on crée finalement celles qui nous définissent comme individus. Et c'est ça l'acte de liberté.
Ouais. C'est finalement d'où l'importance de parler aux enfants de leurs erreurs, hein, tout simplement.
Et surtout de leur parler, bien sûr, pour les guider, pour leur dire voilà quelle était la bonne solution. Mais surtout, c'est le comportement exploratoire qui est essentiel, qui est central. Ce que disait Emmanuel Prostick, c'est que notre cerveau, il ne fonctionne que pour explorer et ensuite sélectionner ce qui est adapté à l'environnement. Et nos environnements sont tous différents en fonction de nos individualités. Donc, si on n'explore pas, on ne trouvera pas la voie adaptée à notre environnement. La liberté, c'est l'exploration et ça inclut réussite, erreur, mise à jour en fonction des erreurs, mais sans les prendre comme un jugement de valeur, c'est ça le problème. Ce que dénoncent tous les psychiatres, c'est qu'à un moment, on intègre ça comme un jugement de valeur sur notre personne, alors que c'est simplement une information.
Voilà, dossier très intéressant, en tout cas, apprendre de ses erreurs à la une de Cerveau et Psycho, donc c'est dans les kiosques en ce moment. Lisez donc ce numéro avec la rencontre entre la philosophie, les neurosciences, la psychiatrie, quand l'échec forge le cerveau. Et merci beaucoup à tous les trois d'être venus en parler cet après-midi. Midi dans la tête au carré et à bientôt, je l'espère.
Merci, merci.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis à 20h50 ce soir, vous avez rendez-vous donc avec la science en grand format, soirée qui sera consacrée aujourd'hui à la civilisation grecque. Bonjour Thierry Minot.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous êtes adjoint à l'unité documentaire de France 5, on va donc s'intéresser aux nombreux apports de la Grèce antique. Hein.
Effectivement, et c'est assez amusant parce que dans l'Antiquité, les Grecs tout d'abord expliquent le monde à travers les dieux et la mythologie. Mais pour des penseurs comme Platon, Aristote ou Socrate, ces explications ne suffisent plus. Ils souhaitent comprendre le monde en observant la nature qui les entoure. Ces hommes qui sont considérés comme les fondateurs de la science moderne sont aussi appelés philosophes. Et ils édictent assez rapidement de nombreuses lois qui régissent encore notre système de pensée.
Eh bien voici un extrait de ce documentaire justement que vous verrez ce soir.
La Grèce antique donne naissance aux premiers cartographes qui conçoivent des cartes du monde avec des longitudes et des latitudes. Les Grecs réalisent aussi que la Terre est ronde et Ptolémée comprend que les planètes et les corps célestes tournent autour d'elle. Parmi les autres inventions, il faut citer la première machine à vapeur et la pompe à eau. Les Grecs innovent aussi sur le plan militaire, avec la catapulte et les ancêtres des armures pour les soldats. Archimède formule la théorie du levier et pose les fondations de la mécanique moderne. La géométrie et l'algèbre remontent aussi aux savants de la Grèce antique. Une grande part de ce qui nous entoure est héritée des observations, des calculs et des conclusions des grands esprits de l'Antiquité.
Voilà Thierry Minot, c'est ce qu'on verra dans le documentaire ce soir, c'est cet héritage hein, évidemment des Grecs.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est étonnant et ce qu'on n'imagine plus, c'est que certaines inventions de ces premiers scientifiques ont vraiment traversé les millénaires. Alors, leur legs aujourd'hui est encore impressionnant. Et il continue à fasciner notre vie et notre manière de penser. En fait, cette quête perpétuelle d'explications les a conduits à découvrir les lois universelles de la nature et à définir les bases de la science telles que nous la connaissons aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire, Mathieu, en conclusion, qu'aucun peuple n'a vraiment autant influencé la technologie moderne et ouvert la voie au progrès que les Grecs.
Voilà, ils ont changé le monde. Les Grecs, Charles Pépin, vous pourrez regarder ça ce soir. C'est à 20h50 et c'est dans la science grand format sur France 5. Voilà. Merci Thierry Minot, à très bientôt.
Merci Mathieu, au revoir.
Merci à Fabrice Desmas et Anne-Laure Cochet. Vous êtes sur France Inter, il est 15h.